entre les musulmans et au Qatar oriental. J'ai réduit totalement cette
histoire. Moi, c'est les deux qui m'ont dit au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, d'attirer de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de suivre Radio Capi qui vous propose Parole aux auditeurs. Des directeurs et responsables des prisons de la RDC ont participé la semaine dernière à un séminaire à Kinshasa autour des stratégies à mettre en place au sein des établissements pénitentiaires congolais. Objectif, harmoniser les pratiques de gestion des prisons et améliorer les conditions d'incarcération des détenus. D'après la MONUSCO, il y a des prisons qui n'ont pas de règlement d'ordre intérieur. Tous les aspects de l'administration pénitentiaire doivent être rédigés avec des règlements. Ça inclut également les règlements pour les comportements des détenus et du personnel. Certains observateurs expliquent que pour améliorer la gestion des prisons, il faut initier un programme national de renforcement des capacités des gestionnaires et penser à rajouter d'autres infrastructures pénitentiaires. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-893-893-15 pour votre intervention en direct. C'est Magazine des Champs Citoyens. Émis en monde par Héritier Tidia Kiala et Julie Feza sur la gestion du standard. Jean-Louis Gembo est à la réalisation et coordination. Pierrot et la Mégie vous le présente sous la supervision de Martin Sebojango. Fidèle de l'hyper, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocafé.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Comment améliorer la gestion de prison, toutes les questions liées au comportement des détenus, au nombre de infrastructures pénitentiaires à travers le pays, ces questions ont été abordées dans ces séminaires. Mais ensemble avec vous dans cette émission, nous échangeons comment arriver à améliorer la gestion de nos prisons dans nos milieux, quelles sont les questions majeures qui peuvent être abordées et les mesures qui doivent être prises. C'est la question au centre de notre échange. Nous avons en ligne Maître Trésor qui nous appelle de Kinshasa, ici dans la capitale, mais on a aussi en ligne Monsieur Fernand Bajikile. Monsieur Fernand Bajikile, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Pierre et l'Angie.
Merci d'être avec nous dans cet échange. Et vous, vous dirigez une ONG qui venait récemment de mener une mission d'enquête au niveau de maison carcérale dans la ville de Kinshasa. Pourriez-vous nous parler un peu, en bref, de ce qui a été fait avant d'aborder la question sur l'amélioration?
Oui, merci, Monsieur Pierre. J'avais bien voulu commencer avec la situation des prisons. Les préoccupations des cachets qui terminaient avec aussi les cas de prison.
Oui,
oui, on avait fait vraiment constat depuis le mois de décembre qu'on avait nommé une mission en rapport avec la situation des cachots. Vraiment, en tout cas, après avoir circulé avec les amis dans les différents cachots de la ville, il n'y a pas vraiment un cachot qui reflète vraiment la dignité de la personne humaine, voire même les droits même des personnes arrêtées. Parce que vous allez trouver dans une petite chambrette appelée cachot, qui mesure 3 mètres sur 4, et à l'intérieur là-bas, il y a au moins 15 personnes. Et ces cachots non arriérés, alors mire très très sale, et au point vous allez trouver les bidons de 20 litres coupés, et qui doivent servir pour comme urinoir, et d'autres besoins aussi. Et dans d'autres commissariats, on met même les gens dans les conteneurs, ce qui est vraiment formidable avec cette chaleur en tout cas. Alors voilà au moins quelques constats qu'on avait vraiment fait en rapport avec ce qu'on avait vraiment visité. Et voire même, il y a d'autres cachots, on n'autorise même pas des visites. Or, c'est en contradiction avec même la loi. Pourquoi? Parce que toute personne arrêtée doit entrer en contact avec ses proches, voire même ses conseils. Alors voilà au moins des remarques qu'on a vraiment fait en rapport avec des cachots. Pour ce qui est des prisons,
les prisons oui.
En tout cas, la prison, c'est une peine qui est infligée aux auteurs des infractions. Alors cet emprisonnement a pour mission, on n'arrête pas pour arrêter, ou soit ça ne sert à rien seulement de punir, mais il y a aussi le problème de l'éducation. Alors l'emprisonnement a pour mission de mettre la société à l'abri des personnes qui risquent de la mise. Alors ces prisons ont également aussi pour objet d'éduquer. C'est ça le plus grand problème, éduquer les condamnés, afin qu'ils ne récidivent pas, mais qu'ils ne puissent se réinsérer dans la société une fois qu'ils ont purgé leur peine. C'est ça vraiment des missions essentielles que nous devons tenir en compte. Cette mission éducative est très importante. Elle doit permettre aux condamnés qu'ils ne récidivent pas, parce que c'est le sérieux problème que nous avons dans nos prisons, voire même des cachots. Alors aujourd'hui, dans notre constat, des prisons, même les cachots, sont devenus des endroits de souffrance, vengeance et encore même des crimes. Alors voilà ce que nous on a constaté.
Voilà, c'est le problème que vous avez constaté. Oui, c'est que vous avez constaté, monsieur Fernand Bajikili, je retiens quand même quelque chose d'important. Vous avez dit la prison a une mission, c'est d'abord la protection de la société par rapport à ces hommes qui sont condamnés. Ils doivent aller purger une peine. En attendant, la société est protégée. Mais il y a aussi l'éducation, c'est-à-dire que la personne va et doit être éduquée en prison. Quand elle retourne, elle doit contribuer, n'est-ce pas, aujourd'hui au développement de la société par la réinsertion. Mais vous animez une ONG. Quelle est votre part de responsabilité aujourd'hui des ONG dans l'amélioration du système carcéral congolais? Est-ce que les ONG ont-ils une part de responsabilité?
Oui, bien sûr, notre part de responsabilité, c'est souvent on a toujours sensibilisé les éléments de la police, surtout les OPJ, qui arrêtent les gens arbitrairement, de pouvoir vraiment éviter d'arrêter et respecter surtout aussi les délais de détention. C'est ça notre plus grand problème parce que, vous voyez, les problèmes ici de détention provisoire, que ce soit dans des cachots, que ce soit même dans des prisons, c'est ce qui fait que nos prisons soient surpeuplées, où on trouve plus de personnes à cause des détentions ici. Alors que ce qu'on a toujours fait, on a toujours sensibilisé la population, on a toujours sensibilisé aussi les éléments de la police, surtout les OPJ, de ne plus vraiment arrêter arbitrairement tout comme avec les problèmes aussi de détention provisoire, qui est vraiment une mesure de pratique vraiment qui est beaucoup critiquée en rapport qui est en opposition avec les principes de présomption d'innocence. Pourquoi? Parce que cela fait assez que nos prisons soient surpeuplées aujourd'hui, voire même des cachots et surtout le problème de la récidive. C'est pourquoi nous éduquons la population, nous éduquons nos membres à ceux qui puissent vraiment connaître les lois, ainsi aussi de respecter et enfin aussi même de revendiquer en cas où leurs droits sont bafoués. C'est ça ce que nous sommes en train de faire chaque fois.
Mais quand on regarde aujourd'hui, M. Fernand, quand on regarde les budgets aujourd'hui alloués aux prisons, ça ne représente rien. Pensez-vous aujourd'hui avec le nombre de personnes qui sont arrêtées, que sans moyens, même si on sensibilisait les OPJ, on sensibilisait les responsables des prisons, dès lors qu'il n'y a pas de moyens pour la prise en charge des détenus, pensez-vous que la question puisse être résolue de cette manière-là? Il faudra assez d'argent pour nourrir les prisonniers, ce qui n'est pas le cas. Beaucoup de prisons, c'est très difficile aujourd'hui. Les gens se débrouillent pour être nourris. S'il n'y a pas des églises et il n'y a pas des gouvernements provinciaux qui se débrouillent, mais sans moyens, sans budget conséquent, pensez-vous que la situation dans les prisons peut être améliorée uniquement par la sensibilisation?
Pardon, M. Thierry, si vous pouvez reprendre.
J'évoquais la question de moyens. Le budget aujourd'hui alloué au secteur de prison est assez insignifiant. Pensez-vous que ce soit possible d'améliorer les conditions des détenus uniquement en sensibilisant les responsables des prisons ou bien les OPJ?
Oui, bien sûr, dans les recommandations, nous on sensibilise les OPJ parce que ici la responsabilité est partagée. Il y a aussi les problèmes des magistrats, il y a les problèmes des OPJ ainsi que des autorités. Pourquoi? Parce que quand les magistrats arrêtent en détention provisoire avec un délai prolongé, les OPJ aussi arrêtent. Et alors tout ça, ce sont des responsabilités qui sont partagées. Alors de l'autre côté, il y a l'autorité. Elle devrait aussi vraiment disponibiliser vraiment un moyen conséquent pour vraiment prendre prise en charge totale des prisonniers et ainsi que des prisons, voire même des cachots. C'est ça le problème que nous sommes en train de déplorer. Des responsabilités partagées. C'est ainsi que si même dans les recommandations, M. Thierry, nous on souhaite assez que dans les prisons, que l'éducation soit vraiment des priorités. C'est qu'on puisse vraiment programmer des formations d'apprentissage ainsi que socio-éducatives. Ça, c'est très, très capital pour nos prisons. Et aussi vraiment construction des maisons d'arrêt. Surtout séparer les détenus avec des prévenus. Pourquoi? Parce que une personne condamnée n'est pas à mettre ensemble avec une personne qui n'est pas encore condamnée. Alors c'est ce qui fait que nous constatons ça dans toutes nos prisons. et le problème aussi de cohabitation des prisonniers. Quelqu'un qui a commis le crime, par exemple, le meurtre, ainsi assassinat, alors vous le mettez ensemble avec quelqu'un qui a commis injure publique. Alors tout ça, avec des cohabitations, ça influence, il y a vraiment des mauvaises influences.
Merci.
Ça, c'est que les gens peuvent toujours le problème de la récidive à tout moment.
Vous
constatez quelqu'un arrêté au mois de février, au mois de mars, on l'arrête encore au mois d'avril, c'est qu'il devient ami de prison. Alors tout ça, c'est des problèmes vraiment sérieux qu'il faut vraiment éteindre.
Merci. Merci beaucoup, Monsieur Fernand Bajik. Je retiens, vous proposez d'abord qu'il faut éduquer les prisonniers, organiser des formations, la construction de maisons d'arrêt pour séparer les détenus et les condamnés, la question de la cohabitation, mais tout ça, ça demande à ce que le pouvoir public mette des moyens. C'est pourquoi la MONUSCO a insisté au cours de cet atelier sur l'importance des règlements intérieurs à travers les prisons qui doivent aussi déterminer le comportement des détenus. Merci beaucoup, Monsieur Fernand Bajikile, de nous avoir accordé de votre temps et de ses témoignages. Maître Trésor Likonda, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour, Piero.
On vous écoute. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour arriver à améliorer la gestion de notre système pénitentiaire?
Merci. Je salue l'invité qui vient de parler. Il a donné des informations correctes et aussi vérifiables. Et le travail que fait son ONG, je crois... c'est un travail impeccable et qui est aussi favorable pour les gens qui sont incarcérés par-ci par-là. Je voudrais simplement les rencontrer pour donner une précision de taille par rapport à ce qu'il a dit. Il faut différencier les détenus des prévenus. Et donc, il a donné une différence qui est l'un n'est pas condamné et l'autre est condamné comme si le prévenu est déjà condamné. Je voudrais simplement dire que il y a un détenu qui est encore inculpé, c'est-à-dire entre les mains du ministère public.
Mais je crois que maître, si j'ai bien retenu, il a parlé de séparer les détenus, les prévenus des condamnés. Cela veut dire que les gens qui ne sont pas encore condamnés doivent être séparés avec ceux qui sont déjà condamnés. Je crois que c'est ce qui a été évoqué, c'est ce que j'ai noté dans le propos de M. Fernand Bajikile.
Bon, ça, c'est là, ça ne vaut pas la peine que je puisse revenir sur ça.
Okay.
Je vais simplement dire rapidement que une prison, c'est comme une sorte d'un État non souverain, mais qui a un territoire et une population. Et dans cette situation-là, on doit chercher à organiser ce territoire et mettre les normes qu'il faut pour que la population qui est là-bas puisse vivre dans des conditions assez humaines, des conditions qui puissent répondre aux droits de l'homme. Et bien, en ce qui concerne notre pays, il y a des cachots, l'invité a déjà parlé de cette situation, mais souvent, on a le souci plus de désengorger les cachots rapidement pour favoriser l'engorgement des prisons. Et il se pose aussi la procédure par rapport à la détention. Et même au niveau de la garde à vie, il y a des problèmes, l'invité l'a relevé, et aussi au niveau des prisons, on ne sait pas différencier qui est réellement détenu conformément à la loi et qui ne l'est pas. Puisque pour mettre quelqu'un en détention, il y a des préalables. Le ministère public doit se soumettre à la loi et c'est la loi qui oriente tout. Mais quand on vérifie dans des prisons, et on a souvent l'impression que plusieurs détenus ne le sont que parce qu'ils n'avaient pas peut-être les moyens de répondre à la demande de l'officier du ministère public. C'est pourquoi on va lui dire, bon, comme vous n'avez rien, vous allez rester là-bas jusqu'au jour où vous serez à même de répondre à notre demande. Et bien, dans ce sens-là, la loi est mise à côté. Et donc, quelqu'un qui est peut-être placé sous un mandat d'arrêt provisoire doit dépasser 5 jours, 6 jours, 10 jours sans être présenté devant le juge, hein, en chambre du conseil pour que le juge puisse statuer et vérifier la légalité même de la détention. Et on peut, si vous faites, vous menez une enquête, vous allez trouver qu'il y a des gens comme ça qui ont fait 6 mois, 1 an, 2 ans, qui sont toujours là sans un jugement, et comme ils n'ont pas de moyens pour peut-être solliciter l'office d'un avocat qui peut suivre son dossier, et s'il n'y a pas des ONG financées pour faire ce travail-là, les gens sont en train de souffrir dans des prisons. Mais en ce qui concerne la rééducation ou l'éducation des prisonniers, c'est très bien. Mais aussi, on ne doit pas se limiter seulement à éduquer ou rééduquer les prisonniers. Bon, tous ne sont pas prisonniers, mais il y a des arrêtés arbitraires qui sont là-bas. Mais on les appelle tous prisonniers, on ne fait rien. Mais il ne faudrait pas seulement les éduquer, mais il faut aussi penser à éduquer les personnes investies du pouvoir d'arrêter. Je ne sais pas si on peut créer une sorte de capita pour ces gens-là, qui sont investis du pouvoir d'arrêter. On doit suivre également ce qu'ils font, tout en étant dans leur bureau. C'est cette situation, si on se limite seulement à parler des gens qui sont dans des prisons, on ne va pas résoudre les problèmes, puisque le problème, c'est au niveau des bureaux. Des gens qui sont investis du pouvoir d'arrêter. Mais également, les responsables des prisons, par rapport au budget que vous avez parlé là, le budget pour le fonctionnement des prisons, c'est un problème délicat. On ne sait pas comment gérer cet argent. Et quand on envoie l'argent, si vous avez des correspondants partout dans les provinces, essayez de faire ce travail-là. Vous allez découvrir que cet argent, parfois, ça n'arrive même pas à la destination. Et si vous arrivez au niveau de l'ordonnancement, au niveau de la comptabilité, vous allez remarquer qu'il n'y a pas d'informations fiables par rapport à ces budgets. Et donc, les prisonniers sont aujourd'hui devenus comme des gens délaissés, les gens qui ne sont pas reconnus par leur État, alors que la prison est créée par l'État. Et que l'État a l'obligation de veiller à ce que les personnes incarcérées vivent dans des conditions normales, telles qu'exigées par la Constitution et les lois de la République. Et nous avons ratifié beaucoup de traités au niveau international qui protègent les prisonniers, qui protègent les droits de l'homme. Et dans notre pays, apparemment, cette situation, c'est comme si ne constitue pas une priorité. Alors, en ce moment-là, j'invite le gouvernement à s'y pencher pour essayer un peu d'améliorer la situation. Aujourd'hui, dans le pays, on ne sait pas si dans quelle prison on peut trouver un répertoire fiable des composantes de la population qui est incarcérée. Il y a des personnes qui sont peut-être auteurs de violences sexuelles, il y a l'un de ceux-là qui ont commis les meurtres, on ne sait pas identifier quel est qui dans telle prison. On ne sait pas.
Alors, maître Likosa, parce qu'on a parlé des conditions, au-delà de tout, vous avez dit, le travail doit d'abord se faire en amont, c'est auprès du ministère, l'officier du ministère public, la détention prolongée, parce qu'aujourd'hui, on le sait, dans beaucoup de nos prisons, il y a plus de prévenus que des condamnés, des gens qui attendent depuis deux années, des fois parce qu'ils n'ont pas de moyens, les autres n'ont jamais été jugés, ils n'ont jamais été présentés devant un juge, voilà, autant toutes ces questions doivent être résolues, mais au-delà de tout, il y a cette question de moyens financiers que l'État doit mettre pour pouvoir encadrer les prisonniers, que ce soit la formation, que ce soit les conditions de détention. Je me rappelle bien, il y a quelques années, on a dû se battre pour essayer d'analyser par rapport au budget ce qui pouvait arriver à chaque prisonnier dans le budget il y a deux ans. C'était à peine 0,02 $ par prisonnier, mais c'est un problème très sérieux. Il faudrait des moyens. Et là, vous l'avez dit, maître Likosa, c'est l'obligation de l'État de pouvoir protéger les prisonniers comme le prévoit et la Constitution et les différents traités internationaux que la RDC a ratifiés. Merci beaucoup, maître Likosa. Maître Adrien, vous êtes à Kananga, dans le Kasaï central. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Oui, bonjour Pierre Lemengi, bonjour à tous les amis.
Et vous êtes d'ailleurs sur place à Kananga, vous êtes le coordinateur provincial de la CAJ, l'association congolaise pour l'accès à la justice. Retenez un peu le tableau, que ce soit à Kananga, partout ailleurs où vous travaillez avec l'ONG, la situation des détenus aujourd'hui, la situation des prisons.
Oui, merci Pierre, heureusement que vous l'avez rappelé. Au moins chaque 6 mois, nous faisons des tours de prisons. des provinces. La dernière fois, j'étais à Ilebo, en passant par Mweka, Luebo, ici à Kananga. Je vous dis tout simplement que la situation laisse à désirer. Et nous avions même à son temps dit que tous les prisonniers qui étaient dans ces différentes prisons, c'était tout simplement des volontaires, parce qu'il n'y avait aucune condition qui était réunie pour que ces gens-là soient dans la prison. Et puis, plus loin, je me suis donné même le luxe d'entrer en contact avec les différents responsables, donc les différents directeurs de toutes ces prisons-là, pour essayer un peu d'en savoir plus. Et de tous ces entretiens-là, Pierrot, tout le monde m'a dit ceci: la dernière fois que le Tchad congolais a eu à financer nos prisons remonte en 2011. Ce qui fait que, à partir donc de 2012, les prisons ne recevaient plus rien. Et à Ilebo, qu'est-ce qu'on fait? Comme je vous ai dit, ce sont des volontaires à partir de 10 heures. Parce qu'il n'y a pas moyen que ces gens-là vivent. Les directeurs sortent tous ces prisonniers-là, circulent dans des marchés, dans des artères, pour demander qui des 1000 francs, des 500 francs, ils s'achètent des chikwangs, ils s'achètent des maïs, des farines, et le soir, ils rentrent encore tout bonnement jusqu'au niveau de la prison. Et vous allez vous rendre compte qu'au-delà de tout ce qui s'était passé comme réalité dans toutes ces prisons, c'est là que moi je me suis dit, nos amis de la MONUSCO ont raté vraiment l'occasion, l'opportunité pour dire peut-être la vérité au gouvernement. En lisant les recommandations, hein, on vous dit non, il faut sensibiliser les prisonniers. On va les sensibiliser pourquoi? Parce que dans chaque prison, il y a une organisation et ils ont même leur propre règlement intérieur qui les régisse. On va les sensibiliser pour faire quoi? Parce qu'il y a d'abord le minimum qui n'est pas réuni. Et c'est comme ça que nous, à un certain moment, nous posons la question au gouvernement. À quoi bon de laisser ces prisons-là ouvertes? Soit on peut changer de stratégie, on arrête ces gens-là, hein, on les condamne peut-être à des amendes au lieu de les laisser dans des prisons, parce que la mission primordiale d'une prison, heureusement que ça a été relevé par le premier intervenant, donc les collègues des droits de l'homme, au jour d'aujourd'hui, lorsque nous prenons cette mission-là, nous l'affrontons à la vérité en face. C'est une vérité, donc c'est une mission qui a totalement perdu son sens. Nous ne voyons plus l'éducation, nous ne voyons plus la rééducation. Qu'est-ce que nous voyons lorsque quelqu'un est en prison, c'est-à-dire on a précipité la mort à ces messieurs-là? Deuxièmement, le confrère Jikonza a soulevé un point capital, il a stigmatisé les officiers de police judiciaire et les officiers du ministère public. Mais au-delà de tout ça, moi j'aimerais épingler l'angle de responsabilité des juges. Parce qu'il y a des fois, moi je suis un avocat, je me retrouve devant deux cas lorsque mon barreau me donne la charge d'aller circuler dans des prisons pour les cas, dans le cadre de BCG, donc bureau de consultation gratuite. Je me retrouve devant certains cas flagrants, c'est-à-dire quelqu'un arrêté et on a même oublié son dossier. Quelqu'un qui vous dit que j'ai été arrêté depuis 2013, mais je n'ai jamais été jugé. Et lorsque vous faites des procédures, vous bousculez, on fixe les dossiers pour la chambre du conseil, vous soulevez toutes ces irrégularités-là devant le juge. Le juge se rend compte effectivement que non, il y a une irrégularité. Au lieu de lever la main de cette détention, au lieu de prendre toutes les responsabilités, tirer les conséquences des droits y afférentes, mais qu'est-ce que nous voyons souvent? Les juges se mettent dans une sorte de protectionnalisme avec les OPJ, avec les OMP, pour dire non, nous demandons à l'officier du ministère public d'aller régulariser la situation de ces détenus. Donc, tout le monde, les avocats sortent très malades, ils disent, mais ça c'est le type de quoi.
Alors, quand on regarde aujourd'hui, Maître Adrien, quand on regarde aujourd'hui, la situation elle est assez préoccupante, il faut qu'on se le dise par rapport aux prisons. Vous insistez sur ces prisonniers volontaires, on le voit presque ailleurs aussi, hein. Ces prisonniers qui quémandent et puis le soir ils rentrent dans prison. Mais je me rappelle, c'était en 2010, il y a un sénateur, c'était M. Kakwa Tangoza qui avait présenté un projet de loi sur le régime pénitentiaire, où il estimait qu'on n'a pas vraiment des lois spécifiques. Il y a des textes qui datent des 65, des 87. Alors pour lui, il fallait une loi spécifique qui pouvait aider à résoudre cette question de la détention. Pensez-vous aujourd'hui que le problème, c'est au niveau de la volonté, de la préoccupation majeure de l'État qui considère les prisons comme une préoccupation, ou c'est un problème au niveau des textes juridiques, Maître Adrien?
Oui, merci pour cette question. Moi, je vous ai dit ici que les problèmes actuels ne se posent pas au niveau des textes, parce que le problème auquel donc les prisonniers sont invités, c'est un problème financier premièrement. C'est un problème financier parce que au-delà de l'air mangé, les prisonniers font face à certaines maladies terribles. Mais aller à la prison centrale de Kananga, ce qu'on appelle peut-être centre de santé, il y a quoi? Il y a peut-être des paracétamol. Quelqu'un qui a une maladie grave, mais on lui donne une paracétamol et on dit que non, il a reçu des soins. Donc, les textes, c'est un cas, donc, accessoire. Le cas principal, c'est cette volonté-là politique. C'est comme ça que moi, j'ai dit, si le gouvernement estime qu'il n'a pas les moyens entre ses mains de la politique pour nos prisons, autant les fermer, au lieu de laisser ces gens-là continuer à souffrir. Au jour d'aujourd'hui, ça nous semble alors que vous arrivez dans n'importe quelle prison de la province du Kassai centrale ou la province du Kassai, vous avez vraiment horreur au cœur.
Et là, résume en cette question de volonté politique, Maître Adrien, vous estimez que c'est une question de volonté politique, le pouvoir public doit considérer que c'est une préoccupation, que ce soit la protection des prisonniers, leur encadrement, leur éducation, ça doit être inscrit dans cette volonté politique. Sylvain, vous êtes à Bounia et Félicien à Kinshasa, vous gardez la ligne 081-890-6315 si vous avez besoin d'intervenir par rapport à l'amélioration des conditions carcérales à travers le pays.
Au Capi Danse, je rythme de la chaleur, des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, graffiti d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Daddy. Au Capi Danse, le mercredi jeudi de 21h à minuit, le samedi, Mega Mix de 19h à minuit.
Nous avons Sylvain qui nous appelle de Bounia, en province d'Ituri. Sylvain, bonjour et bienvenue dans cet échange. Sylvain, vous êtes avec nous, bonjour. Dommage, on a perdu Sylvain qui est la réalisation pourra récupérer. En attendant, on retourne ici à Kinshasa. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité, bonjour à tous les auditeurs de Radio Kabi.
On vous écoute, Félicien.
Oui, moi, mais je pense que le plus grand problème, c'est que nous, Congolais ou Africains, nous voulons tout copier des Occidentaux. Quand nous voyons les textes juridiques que nous utilisons, c'est du copier-coller. C'est généralement c'est la loi française, belge, que nous utilisons. Et nous avons donné beaucoup de pouvoir à nos magistrats, à nos juges, et alors que nous ne leur avons pas donné l'éthique et la morale qu'ont les magistrats et juges et belges et français ou occidentaux. Et ces gens-là se comportent de cette façon-là, où pour un petit rien, ils envoient quelqu'un en prison. Et même quand c'est pour une dispute qui est pour une copine et une fille, alors le magistrat veut prouver à l'autre que lui il est magistrat et il fabrique des papiers. Et dès qu'il a signé, plus personne ne peut discuter et le monsieur est passé en prison. Et la prison est remplie avec des gens qui ne devaient pas être en prison en réalité. Alors que partout ailleurs on cherche à alléger les prisons, là où même on a les moyens de nourrir, les moyens de mettre à l'aise les prisons, on invente encore des systèmes de bracelets et de ceci, cela, c'est-à-dire qu'on donne beaucoup plus de d'occasion aux gens d'être en dehors des prisons, mais avec une liberté surveillée. Mais chez nous, tout le monde va en prison, même ceux qui ne peuvent pas aller en prison. Et c'est là d'abord le premier problème. Le deuxième problème, vous avez des gens qui doivent gérer cette prison-là. Mais dans tous les domaines de la vie, les gens ont quelle éthique, quelle morale. Nous sommes dans un système d'antivaleur de corruption. Même si le budget a été voté, même s'il était suffisant, qui va l'exécuter? À commencer par le chef au haut niveau, c'est le ministre, il va d'abord fonctionner dans le budget de la prison. Et le secrétaire général va fonctionner, le directeur de prison va fonctionner. Si déjà les gens qui sont libres, les gens qui peuvent vivre normalement, qui travaillent et pour la République, n'ont pas les conditions de vie qu'il faut, c'est aux prisonniers qu'on va penser. Nous avons un problème d'hommes, nous avons un problème d'éthique et de morale, d'anti-valeur en général. C'est là que nous devions nous attaquer. Et donc, nous n'allons pas améliorer les conditions des prisons quand nous ne savons pas améliorer les conditions de vie de toute la population et dans tous les domaines de la vie. Nous avons un problème. C'est à ce problème que nous devions nous attaquer, nous, Africains, nous, Congolais. Mais ça, nous donnons des avis. Personne ne pourra arranger un secteur comme celui-là. Ça ne sera jamais arrangé. Et le plus grand problème, c'est de sortir du copier-coller des Occidentaux et d'adapter nos textes à nos réalités, à nos comportements. Et moi, je pense que c'est là le problème.
Merci beaucoup, Félicia. Vous avez beaucoup insisté sur l'éthique, la morale. Vous estimez que ce sont les mots-clés, hein, la base même de tout ce qui doit être fait quand il faut réfléchir autour de ces questions de gestion des prisons, que ce soit les juges, les magistrats, pour voir, on l'a dit plusieurs fois dans nos émissions, beaucoup de gens qui se retrouvent en prison, il y a beaucoup de prévenus et des condamnés, comme vous l'avez dit, pour un rien, il y a des gens qui se retrouvent autant d'années derrière les barreaux, mais s'il faudrait aussi mettre des moyens, la question de la gestion à tous les échelons, ça risque effectivement de compromettre la gestion même de fonds qui peuvent être alloués plutôt à la gestion des prisons. Voilà autant de questions qui doivent être discutées en adaptant bien sûr les textes juridiques liés à ces systèmes pénitentiaires aux réalités congolaises. Merci beaucoup Félicien, vous êtes à Kinshasa. Arsène, vous êtes à Kikuit dans les Kulu. Vous gardez la ligne, le temps qu'on écoute aussi quelques messages. Beaucoup d'auditeurs ont commenté ces sujets sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Il y a qui est ici à Kinshasa, à l'université de Kinshasa, dit ceci: pour une amélioration de nos prisons au Congo, j'estime que l'élargissement d'espace, la construction d'autres prisons et le renforcement des capacités des agents en pénitentiaire face à la vigilance et surveillance pourront assainir ces milieux. Parce que les prisons au Congo ont plus de candidats en tant que des candidats sortants, d'où il faut passer par l'élargissement de prisons et l'augmentation d'infrastructures. Alain Bologio a décrit ça: la problématique de la gouvernance des centres pénitentiaires relève plus de la conception qui se font les décideurs politiques. Ces centres devraient en principe être le cadre des socialisations ou encore d'intégration sociale et non des humanisations. Il s'observe aujourd'hui que les conditions de détention exposent les détenus à une sorte d'animalisation. Le cadre de la prison de Makala à Kinshasa en est une preuve éloquente. Alors qu'elle est construite pour accueillir 2000 âmes, l'on enregistre aujourd'hui plus de 7000 personnes. Les conditions des restaurations et de logement restent très précaires. À la fin de leur détention, les détenus deviennent plus hétérodoxes qu'avant d'être incarcérés. Alexis Lukwela de Kinshasa: je ne sais pas si c'est seulement ici à RDC ou lorsqu'on est prisonnier, on a plus besoin de vie, car en réalité, nos prisons deviennent des lieux où les détenus tirent à tout le temps les maladies de toutes sortes. À la base, la capacité d'accueil de nos prisons, le manque de contrôle, il n'y a pas d'aliments, il n'y a pas de conditions hygiéniques, alors tout cela, ça devient très difficile à pouvoir gérer. Coco Kingston Kabamba: même si ces prisons seront dotées de bons règlements d'intérieur, je pense qu'à mon humble avis, un ventre affamé n'a point d'oreille. Les vivres destinés à ces détenus, tant qu'ils seront détournés, les règlements intérieurs ne produiront rien. Il faudrait commencer par combattre l'impunité et allouer les moyens conséquents pour la gestion des prisons. Arsène, vous êtes avec nous. Bonjour et bienvenue dans cet échange.
Bonjour et merci beaucoup pour la parole donnée. Moi, je crois qu'à mon avis, je partirai de la fameuse phrase du maréchal Mobutu qui disait « J'ai tout construit, mais il y a quelque chose que je n'ai pas construit, je n'ai pas construit ces prisons. » Ça veut dire ceci. Moi, je prends ma réflexion dans le sens que une prison a des normes, une prison a des principes à suivre. Mais avoir nos prisons, c'est en quelque chose des chambres de torture. Parce que le Congo en soi, d'abord, c'est une prison assez ouverte. Alors moi, je dirais ceci. Nos autorités doivent savoir ce que c'est une prison. Savoir d'abord définir ce que c'est une prison. Et quand on a la vraie définition d'une prison, je crois qu'ils auront à faire avec toute une organisation, même presque une partie d'un ministère, pour que nos frères qui vont là-bas, à leur sortie, que ce ne soient pas des personnes qui sont devenues radicales, prêtes à devenir aussi, peut-être un beau jour, chez nous, des kamikazes, uniquement parce que cette personne est passée en prison. Donc nous devons viser, voir les choses, faire l'avant, comment améliorer, parce que les critiques, il y en a. Nos prédécesseurs ont fait des analyses, ainsi de suite. Mais allons vers la pratique. La pratique, c'est quoi? La pratique, c'est un plan de réaménagement, de réhabilitation, et un plan aussi de la façon de concevoir qui est prisonnier. Un prisonnier n'est pas un animal. Un prisonnier, c'est un homme qui mérite de tous ses droits d'homme. Malgré qu'il soit encadré quelque part pour être rééduqué. Voilà un peu ma façon de voir les choses. Vous devez
vous avez quand même dit quelque chose dans votre introduction en évoquant le Congo comme une prison à ciel ouvert. Ça veut dire quoi exactement?
Le Congo est une prison à ciel ouvert, ça veut dire quoi? La vie du Congolais. Regardez comment le Congolais vit. Vous êtes à Kinshasa. Faites un petit crochet. Quand on crie sur le boulevard Lumumba, ou bien on crie sur le boulevard du 30 juin. Allez-y voir un enfant de 6 ans malade, plus loin à Kitambo, ou bien peut-être aller plus loin à Makala. Vous allez voir ce que c'est un enfant de 10 ans malade dans un petit dispensaire où c'est entouré de moustiques parce que ça, c'est dans le marécage. Je prends seulement cet exemple. Comment on peut faire pour refaire devenir le Congolais un homme sûr, un homme qui vit en paix et content de vivre chez lui? Parce que si on commence par là, je crois que les prisons, ce sont des accessoires, ça va passer. Mais si on ne sait pas humaniser, ne fût-ce que nos enfants qui viendront peupler ce pays demain, qu'est-ce qu'on va faire pour la prison? C'est aller pour tuer ses propres chers.
Merci beaucoup pour toutes ces explications, Marcel. Mais vous avez quand même dit que tout doit passer par un plan de réhabilitation, un plan de réaménagement. Mais les plans ne doivent pas construire seulement en termes d'infrastructures. Le plan doit être conçu, la compréhension qu'on doit avoir du prisonnier. Parce que tout part aussi de la compréhension. L'esprit, quand quelqu'un est en prison, voilà, on doit l'abandonner. Mais pour vous, l'idée, c'est que ces personnes soient écartées. Comme la mission première l'a dit tout à l'heure, le disait notre premier intervenant, Monsieur Fernand Badji, qui a expliqué que cette mission qui était de protéger la société contre ces personnes, le temps qu'ils soient détenus, et aussi les éduquer en prison pour qu'ils soient utiles à la société, c'est cette considération qui doit être plus considérée par le pouvoir public dans ces plans de réaménagement, de réhabilitation des prisons. Si cela n'est pas considéré, ça sera très difficile que les conditions dans les prisons puissent s'améliorer. Jimmy Moussenvoula de Bounia, lui s'inquiète, il se pose des questions. Si exactement on a un budget consacré aux prisons aujourd'hui, vous l'avez suivi, cher Jimmy, Maître Adrien, qui est de la cage à Kananga, nous a dit tout à l'heure que la dernière fois que les prisons ont reçu la subvention de l'État, selon les témoignages qu'il a donné à Kananga, c'était en 2011. C'est que de 2011 jusqu'en 2016, les budgets de l'État n'a pas pu prévoir des subventions pour les prisons. Et alors, ça sera difficile, vous l'avez dit, que sans budget, les prisonniers puissent être pris en considération. Madame Pascaline, vous êtes ici à Kinshasa. Merci de nous avoir contactés pour votre intervention dans cet échange. Bonjour et bienvenue.
Merci beaucoup. Alors, moi, je disais que, quel que soit le niveau de budget qui sera consacré à cette affaire, ce sera nul. Parce qu'il faut d'abord des préalables. Mmh. Il y a beaucoup de préalables. Il faut prendre en considération cela. Sans ces préalables, vous allez vous retrouver, si possible, en 2030, en train de refaire la même émission et parlant toujours de même truc. Alors, des préalables, il y a d'abord la volonté politique. Mmh. Il y a aussi les conditions des juges et des avocats. Bien sûr qu'ils vont faire le marche, ils vont faire des choses pour qu'on puisse leur donner la partie comme salaire. Mais à combien de fois ils vont le faire? En plus de ça, il n'y a plus la volonté gestion de la justice. Il n'y a plus la volonté. Les avocats travaillent maintenant, ils font des gestions, ils sont devenus des avocats d'affaires. C'est-à-dire, tu as de l'argent, puis ton problème sera résolu. Tu n'as pas d'argent, tu vois, tu seras cloué en prison, et autant donné, il n'y aura personne qui va s'occuper de toi. Alors, ces conditions-là, si ce n'est pas pris en considération, ce sera difficile. Parce que nous suivons, moi personnellement, j'ai des informations sur vos ondes. Il y a plusieurs cas de morts, surtout, j'avais autrefois qui est au Kasaï, oriental, et à Sananga, de maladies contagieuses. Alors, les conditions de vie ne sont pas assez normales. Nous voyons, par exemple, disons que ce sont les mises en scène, mais des scénarios qui se font dans d'autres pays, sur leur état de prison. Mais quelles que soient les conditions, vous trouverez que ce sont des conditions quand même normales. Mm-hmm. Les prisonniers ont droit à la nourriture, quelles que soient, ils vont déclarer, ils vont faire tout ce qu'ils vont faire comme grimace, mais après tout, vous allez trouver qu'il y a une condition de vie qui est normale. Mais pas le cas ici. Si les prisonniers dorment à même le sol, il n'y a pas vraiment la santé, il n'y a rien. C'est cela que moi je vais vous dire. Et surtout les préalables. S'il n'y a pas de préalables, merci.
Merci beaucoup, madame. D'ailleurs, vous avez dit qu'on pourra revenir en 2030 pour faire le même débat, mais c'est pas la première fois. Je me rappelle bien depuis 8 ans maintenant des paroles aux auditeurs. On a eu 3-4 émissions autour des conditions quand il y a eu des épidémies qui se sont déclarées, que ce soit au Kasaï, que ce soit en Bujima, et quand il y a eu des évasions massives à Goma. Nous sommes revenus dans paroles aux auditeurs pour parler des sacrifices des prisons. Et vous estimez qu'il y a des préalables. C'est d'abord la volonté politique, les conditions de travail de ceux qui envoient des personnes en prison. Si cela n'est pas, ces questions ne sont pas prises en compte, ça sera difficile aujourd'hui que la situation s'améliore. Mais parce que vous avez parlé des maladies qui se déclenchent en prison, vous avez suivi Fernand Benjikile en début d'émission après le travail de l'ONG à Kinshasa dans les maisons de détention, où on décrit des scènes du genre un bidon de 25 litres, un morceau de bidon coupé qui sert de c'est pas du respirant pour les besoins, c'est là où chaque détenu peut aller faire ses besoins. Il a dit dans beaucoup de cellules, des cachots, et c'est là même d'ailleurs, dans un espace, il a parlé de 3 sur 4 mètres, vous avez 10 personnes qui vivent, qui côtoient ces bidons, où il y a les urines et les autres. Alors voilà, toutes ces questions ne peuvent pas aider, c'est plus que les gens vont développer des maladies, mais vous estimez que s'il n'y a pas ces problèmes qui ne sont pas pris en compte, ça sera difficile aujourd'hui que cette question soit résolue. Merci beaucoup, Madame Pascaline. Maître Mopila, vous êtes à Guémena. Bonjour, Maître Mopila.
En fait, bonjour, Pierrot. Bonjour aussi à l'invité. Et je salue aussi tous les prisonniers de la prison centrale de Guémena, ici des Zongo, beaucoup plus les prisonniers de Mbanaka.
Mm-hmm. On vous écoute.
Merci Pierrot, je suis au paquet, j'ai pas suivi les intervenants qui m'ont précédé. Et non seulement ça, je vais parler de cette condition carcérale des différentes prisons de la RDC. Et vraiment, je vous dis, Pierrot, c'est vraiment rester à désirer, et aussi à vérifier. Parce que normalement, les prisonniers tels qu'ils sont là, il faut qu'ils soient dans les conditions dont les droits économico-socio-culturels de l'éducation doivent être normalement respectés. Je parle de quoi? Ils doivent être bien logés, bien vêtus, être à communication, et tous ces éléments doivent être respectés. Monsieur Pierrot, je prends l'exemple de la prison centrale de Guémena. La distance qui sépare la prison centrale de Guémena et le parquet, je vous dis, maintenant je suis au parquet, les prisonniers quittent au moins 8 km à pied pour arriver au parquet de Guémena. Pour vu qu'ils passent en chambre du conseil fatigués, affamés, ils n'ont pas mangé. Ça, c'est un. De deux, je prends le cas de la prison centrale de Zongo. Les prisonniers sont là, mais il y a seulement un magistrat qui quitte Guémena pour aller là-bas. Mais les délais de l'habitation ne sont pas respectés. La loi parle, il faut 5 jours avant passer, il faut passer un détenu préventif au niveau de la chambre du conseil. Tous ces délais ne sont pas respectés, Pierrot. Mmh. Je vous dis, ces gens-là sont malades, ils souffrent. Je prends un exemple. J'étais une fois à Gombe, j'ai vu, on a écrit au cimetière, j'étais comme toi. Et nous serons aussi comme ces gens-là. Et pourquoi on ne veut pas respecter les droits des détenus? Ils sont des humains. Et nous, les avocats, nous souffrons. Hier, par exemple, j'ai réussi à avoir la liberté provisoire de mon client, j'étais obligé d'aller là-bas. Mais il est sorti fatigué maintenant, il est à l'hôpital parce qu'on l'a tabassé. Pourquoi ces co-prévenus n'ont pas mangé? Pierrot, c'est vraiment désolé. Alors, s'il y a moyen, j'ai des propositions à faire.
Allez-y.
Pour rapprocher les amigos au niveau du parquet. Parce que s'il y a des ménages, il n'y a pas un amigo. Donc, quelqu'un qui quitte 9 km, il vient. Comment, psychologiquement, il doit intervenir en chambre du conseil? Comment il fait se défendre? C'est impossible. Et vous sentez l'odeur, ça ne va pas, Pierrot. En tout cas, c'est inhumain, c'est dégradant. Je souhaiterais à ce que, parce que, une fois, je salue d'abord la dame ministre à Mbandaka. Elle a fait arrêter le directeur de la prison de Mbandaka. Pourquoi? Parce qu'il a détourné l'argent affecté aux prisonniers pour les nourritures. Alors, je me dis, est-ce qu'ici au Congo, il n'y a pas un budget alloué pour ces gens-là? Parce que ce sont des humains, ils sont arrivés là-bas, ils ont commis un fait, et ce sont des gens qui sont présumés innocents. Ils ne sont pas des condamnés. Leurs parents ne sont pas là-bas. Ils doivent être bien traités. Alors, Pierrot, vraiment, je vous dis, si j'ai intervenu vraiment avec émotion, et c'est décevant, parce qu'ici à Gemina, l'amigo est loin, mais tous ces détenus préventifs sont à Nguenga, à 9 km de parquet. À Zongo, on n'en parle pas, les droits des personnes ne sont pas respectés. On arrête quelqu'un à la police, au lieu de rester 48 heures, on le laisse là-bas. 11 jours, ça dépend de l'OPJ, ça dépend de son humain. Alors tout ça, vraiment, nous les avocats,
les diagnostics, c'est qu'il est fait mettre Mopila, ça montre quand même qu'il y a des problèmes et il faut vraiment se consacrer à ces problèmes. Vous estimez que tout ça doit être pris en compte par le pouvoir public. La question du budget, je le disais tout à l'heure, il y a quelques années, dans Parole aux auditeurs, on a essayé de nous rapprocher de ces budgets. On s'est rendu compte que, bon, d'abord, on a difficile à maîtriser la population carcérale à travers le pays et le moyen qui était affecté pouvait avoisiner à 0,02, 3, 4 $ par prisonnier, et c'est un problème très, très sérieux. Mais voilà, toutes ces questions doivent être résolues, que ce soit des conditions de travail des OPJ, des EMP, de tous ceux-là qui doivent envoyer les gens en prison, la distance qui sépare le parquet de la prison, ces prisonniers qui sont fatigués, qui doivent encore marcher à pied. Cela veut dire que la situation elle est profonde, il faudrait vraiment se consacrer dessus. 081-890-75, c'est le numéro pour intervenir en direct.
Parole aux auditeurs.
La discussion autour de cette question, c'est aussi sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs. Gracien Mikwas a déposé un message. J'apprécie fort cette initiative, car on a constaté que les détenus sont privés de leurs droits. Le gouvernement congolais doit tout faire pour mettre des dispositions légales pour valoriser nos prisons et mettre l'ordre sur les plans organisationnels. Merci beaucoup à Radio Kapi pour les choix de cette Désiré Sakodi pour des Lubumbashi. Je suis d'avis avec ces observateurs qui pensent qu'il faut initier un programme national de renforcement des capacités des gestionnaires. Mais avant de penser à l'ajout d'autres infrastructures, il faut d'abord réhabiliter les infrastructures pénitentiaires que nous avons, qui laissent à désirer, et que chaque prison soit dotée d'un règlement intérieur. Michel Star Espoir de Calémy, quoi que les prisons soient dotées d'un règlement intérieur, comme ils le furent, les détenus n'auront aucun droit leurs propres biens, comme font ceux qui sont aux Pays-Bas et dans beaucoup plus d'autres pays qui sont développés. En effet, pour que cela soit puisse être en marche, il nous faut d'abord arriver au changement de mentalité et notre conception de la prison. Zawadi Kisumbu dit Kiam, c'est une bonne chose. Quand on pense aux prisonniers qui sont privés de leurs droits, ma position serait de construire. Mais il faut qu'on songe à faire travailler ces derniers, à les former. Comme ça, ils pourront apprendre des métiers, fabriquer des choses qu'ils peuvent vendre, et ces choses peuvent contribuer à améliorer leurs conditions de vie dans ces prisons. Nous avons Sketa qui nous appelle de l'Allemagne. Sketa, bonjour. Vous êtes précisément dans quelle ville en Allemagne, Sketa?
Bonjour, j'appelle en Allemagne à partir de Mülheim an der Ruhr, donc c'est tout près de Duisbourg, c'est votre grande ville. J'interviens directement parce que j'étais victime il y a quelques années, mais dans ma famille.
Mm-hmm.
J'avais des personnes qui étaient incarcérées. On a tout fait pour savoir ce qu'ils avaient fait. J'ai perdu même mon frère. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, je voudrais vous proposer une idée.
Oui.
Et créer, comme vous l'avez dit tout à l'heure, là, et créer, allez, quelque chose au niveau du prison qui fera vivre ces gens-là en attendant que vous ayez allez, d'autres possibilités de soutenir ces gens-là en partie de prison. Parce que ces gens-là qui sont là-bas, d'autres, comme disait le président, ils n'ont pas vraiment fait des choses qui sont graves, qui sont vraiment arrêtés là-bas même deux jours. Donc, moi, je proposerais que vous la créez, comme on a vu, on voit ici en Europe, il y a des gens qui partent en prison, et en sortant du prison, il a appris un métier, il devient peut-être un musicien, il devient peut-être un grand boxeur comme Mike Tyson. Donc, des trucs comme ça, là. Créer ça à partir du prison, qui va faire vivre les gens déjà à partir du prison. Il y a ici en Europe, des prisons créent leur propre budget, en dehors d'abord du gouvernement aussi. Et à ce moment-là, ça fait l'harmonie entre le gouvernement et le prison pour qu'ils puissent s'en occuper de leurs prisonniers. Donc, j'aimerais surtout rester sur ce point-là. Qu'il y ait ces gens-là qui ont des occupations, qu'ils puissent même en dehors, quand ils sortent de leur prison, être utiles dans la société. C'est ce que nous, je crois, les Congolais, on a vraiment besoin de ça.
Merci. Merci beaucoup, Sketa. Vous insistez sur ça. Dommage pour ceux que vous avez perdu qui étaient emprisonnés ici au pays, mais vous souhaitez, comme on le voit ailleurs, qu'il y ait des centres de métiers, des centres de formation quand quelqu'un sort de la prison. Déjà, ça doit être, ces centres doivent être considérés comme des activités de revenus, des recettes pour faire vivre les prisonniers en attendant les budgets au niveau de l'État. Et quand les prisonniers, quand ils quittent la prison, ils soient utiles à la société, ils peuvent maîtriser un métier qui, demain, va lui permettre de se réinsérer d'une manière sociale. On l'a dit d'ailleurs en début de cette émission, vous avez suivi Fernand Bagy qui était insisté pour dire que non, c'est ça même la mission d'une prison. Maître de Haute-Grâce, vous êtes ici à Kinshasa, mais en attendant, merci Manzongo de Kinshasa aussi, était tout à l'heure sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Il a dit ceci: pour harmoniser la gestion de l'administration pénitentiaire, il faut d'abord la mise en application des lois et réglementant les centres pénitentiaires par les gestionnaires de ces centres sur entremise du ministre de la Justice doit avoir un œil sur cette gestion. Les détenus doivent exercer les droits qui leur sont reconnus par la loi et être soumis à des obligations de la loi. Louis-Marie Moutanga de Camila, on ne peut pas parler de la gestion de la prison sans parler du traitement des dossiers judiciaires qui est en partie responsable de l'engorgement des maisons pénitentiaires. C'est-à-dire, on retrouve dans nos prisons plus des prévenus que des condamnés qui doivent être prise en charge par le gouvernement congolais. C'est ainsi, parler des réhabilitations des maisons pénitentiaires, c'est faire rire le diable, car on ne sait pas où passent les amendes transactionnelles judiciaires censées renflouer les trésors publics et contribuer à l'amélioration des conditions de détention en RDC. Christian Alvin Emmanuel Kadima Dimboujimaï, je suis d'accord avec eux, mais je me demande pourquoi le gouvernement ne peut pas construire des prisons dans chaque province à la dimension internationale et créer des travaux de rééducation et nourrir les prisonniers. Ainsi, les prisonniers vont travailler, l'argent qui sera généré de leurs activités pourra contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration de leurs conditions de vie. Maître de Haute-Grâce de Kinshasa, bonjour.
Monsieur le journaliste.
On vous écoute, maître. Qu'est-ce qui doit être fait à la fin de cette émission?
Bon, en fait, par rapport à la thématique du jour, d'abord, nous devons savoir que la prison a été faite pour les condamnés et non pour les prévenus, parce que les prévenus, ce sont des personnes dont les dossiers sont encore pendants devant les cours des tribunaux. Et la Constitution même nous dit que toute personne arrêtée est présumée innocente avant que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif. Mmh. Aussi longtemps que les juges naturels de ces derniers n'ont pas encore statué et n'ont pas encore dit un mot sur leur sort, en principe, ils ne pouvaient pas être en prison, mais plutôt même dans des maisons d'arrêt. Et ce que nous regrettons, c'est qu'en République démocratique du Congo, il n'y a pas une bonne politique en matière judiciaire pour qu'il y ait des infrastructures pouvant permettre de séparer les maisons d'arrêt et les prisons. En fait, monsieur le journaliste, j'ai été au Bas-Congo, j'ai été à la prison de Songololo, j'ai été à la prison de Matadi, et d'ailleurs, pour votre information, j'ai eu à perdre l'un de mes clients qui était policier. Vraiment, c'était les conditions qui sont aux prisons, ce sont des conditions qui laissent vraiment à désirer. Ce sont des conditions déplorables, inhumaines, dégradantes et puis cruelles. Et je me pose la question de savoir, est-ce hypnogènes, nos frères et sœurs qui sont en prison, ce sont eux qui ont commis les crimes les plus graves qui n'ont plus droit à la vie. En tout cas, il faut faire un peu le monitoring, parce que lorsque nous faisons même le monitoring, vraiment, c'est malheureux.
Et vous l'avez dit d'ailleurs, Maître Dieudonné, Maître Léo Gracias, à l'introduction, il y a un intervenant qui a proposé même cette séparation, c'est une ONG, cette séparation entre les prisons et les maisons d'arrêt. Et aujourd'hui, c'est un problème très sérieux. Les conditions sont inhumaines, vous l'avez dit. Dommage pour le client que vous avez perdu, alors que vous devez plaider sa cause. Il est mort à cause des conditions de vie dans la prison. Merci beaucoup, Maître Léo Gracias, pour ce témoignage. Nous allons terminer avec vous, Maître Pascal. Vous êtes à Nitouri, Maître Pascal. Vous avez suivi les autres en 1 minute et demie aussi votre intervention pour l'amélioration de nos prisons.
Oui, merci, ce maître Pascal, ce n'est pas du tout, mais bientôt à Dungu, dans la province de Haute-Ouélé.
Ah, okay.
Merci encore pour m'accorder cette chance de participer, même à 1 minute, comme vous venez de me donner. C'est un sujet vraiment très intéressant à l'état auxiliaire de la justice que je suis et le protecteur des droits humains. Vous savez que non, il y a tant de communiqués que je publie concernant le problème de conditions de vie des personnes arrêtées et de la prison. Et surtout, prenons le contexte de nous ici à Haute-Ouélé. Nous avons 6 territoires. Dans 6 territoires, il y a qu'une seule prison centrale qui est la prison de Dungu qui remplit un paix énorme de conditions, de lieux de détention. Par conséquent, cette prison commence à régorger toutes les 7 territoires, voire même le chef-lieu de la district à Isiro. On achemine les gens jusqu'au niveau.
Et là, je crois bien que Maître Pascal, vous avez rejoint ceux qui pensent qu'il faudrait, au-delà de tout, améliorer et ajouter d'autres infrastructures pénitentiaires. Mais beaucoup d'auditeurs sont revenus sur cette question des maisons d'arrêt et sur les conditions. Même qui font que les gens soient en prison, si tout ça doit être pris en compte, on pense que ça peut aller. Merci. Vous avez été nombreux hein, pour vos témoignages. Merci aussi à l'ONG qui est avec nous au début de cette émission. Des ONG d'ailleurs à CAGE avec Maître Adrien, mais aussi CNDH avec Monsieur Bajikili Fernand. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé à produire cette émission qui a été mise en monde par Héritier Sidia Kalajir. Le Nimbo était à la réalisation et la coordination. Fait assurer la gestion du standard et Pierrot et la Maison vous la présenter sous la supervision de Martin Sebouzang. Parole aux auditeurs, c'est sur www.radiocapi.net. Merci à tous, au revoir.